Bienvenue sur J'enrage, ton émission féministe lilloise.
Un dimanche sur deux, J'enrage décrypte les enjeux
de l'actualité politique, mais pas que.
De 14 à 15 heures, toi-même tu sais par cœur.
Par cœur.
Bonjour, bienvenue sur J'enrage, on est sur RCV 99 FM, nous sommes le dimanche 7 juin 2015 et aujourd'hui Zab va nous parler de Facing Mirrors, mal traduit par une femme iranienne, donc un film concernant une femme iranienne chauffeur de taxi, c'est ça ? Et voilà, et on va aussi vous parler de Renée Cox qui est une artiste que Suzanne nous présente depuis les États-Unis.
Ithaca, qui est à 3 heures de New York, grosso modo. Elle a été voir une exposition et puis elle nous a préparé une petite chronique ou rubrique sur cette artiste.
Voilà, qu'on vous passera tout à l'heure. Et moi, je vais vous parler du sexisme langagier ou du langage sexiste ordinaire. Tout de suite, je vous le mettrai en lien sur la page Facebook, mais... Je me fonde sur un article qui est paru dans Libé, dans la rubrique sexe et genre, qui s'appelle « Depuis quand les mots ont un sexe ?» si ma mémoire est bonne. Et sur un imagier aussi pour enfants que je vous présenterai tout à l'heure, qui s'appelle « Le zizi des mots ». On entend souvent dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Et là, je vous recommande la lecture du livre d'Eliane Viennot « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ».
Dont on vous avait vaguement parlé la dernière fois, enfin vaguement un petit peu, je me souviens, on avait fait une rubrique sur la littérature norvégienne ou finlandaise, je sais pas comment on dit.
Finnoise, je crois.
Voilà, il y avait eu un reportage sur Arte qui présentait le salon littéraire européen oui. En Allemagne, je ne sais plus c'était quoi la ville.
Je ne me souviens plus non plus, mais oui, j'ai un vague souvenir de ça.
Et c'était les femmes à l'honneur avec, ouais. La littérature finnoise et on vous avait déjà parlé de... On vous avait parlé des pronoms neutres en ouais. finnois qui permettent de ne pas genrer les personnages et du coup, on vous avait parlé de la masculinisation systématique dans le langage.
Bah justement, donc l'article sur Libération parle de cette masculinisation systématique. En fait, le langage actuel et surtout le genre des mots date du XVIIe siècle, en fait. À cette époque a été créée l'Académie française, qui est le garant de la bonne langue française, le bon usage de la langue française. Ouais. Et en fait, l'objectif premier de l'Académie française, c'était de faire un dictionnaire. Et à cette époque, les puristes du français veulent faire régner l'ordre dans le langage en s'appuyant sur le fait que la nature donne le mâle supérieur sur la femelle. Et ils décident que certains mots deviendront l'apanage des hommes, et donc ils suppriment purement et simplement l'existence du mot féminin. Parce qu'au XVIIe siècle, les mots philosophesse, médecine, autrice, peintresse, apprentisse, financière, officière, clergesse ou encore dompteresse, et d'autres, hein, que j'ai pas tous cités, étaient couramment utilisés. Et en fait, ils disparaissent avec la création de l'Académie française. L'histoire de l'éradication de ces mots féminins, Ça viendrait d'une crise dynastique de la fin du XVIe siècle, parce que Henri II et Catherine de Médicis, juste, je vous le fais rapidement, avaient 4 garçons, donc normalement la descendance pour le trône était assurée, sauf qu'il n'y en a aucun qui a eu de fils légitime, et ils sont tous morts jeunes, voire très jeunes. Et donc en fait, Henri IV a commencé à faire campagne pour la succession d'Henri II sur le trône. Et... parce que lui, c'est pas le fils direct d'Henri II, je crois que c'est son neveu. Et donc, en fait, il mène campagne en sa propre faveur au nom de descendants directs de Saint-Louis, selon une loi qu'on appelle salique. Et en fait, cette loi, qui est d'origine douteuse, voire mystificatrice, interdirait aux femmes d'accéder au trône selon l'argument, je vais vous expliquer l'argument après, le peuple français est trop glorieux pour que son trône puisse jamais tomber en quenouille. En fait, l'expression de base, c'est tomber de lance en quenouille, et en fait, la lance, donc c'est l'arme des nobles moyenâgeux, enfin des chevaliers au Moyen-Âge qui étaient une haute fonction de la noblesse et donc qui est un symbole de virilité et de noblesse, de pouvoir, d'honneur hyper important. Et en fait la quenouille c'est une partie du métier à filer la laine des femmes au Moyen-Âge aussi, Et donc, bah voilà, c'est un truc qui pique aussi, mais pour filer la laine, et c'est exclusivement féminin, le métier à filer à l'époque. Et donc, voilà, le peuple français est trop glorieux pour que son trône puisse jamais tomber en quenouille, ça veut dire tomber entre les mains d'une femme, en gros. Voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, l'argument apparemment fait mouche, et donc Henri IV accède au trône. Et le combat qui était politique au départ se déplace vers le savoir, parce que les femmes savantes sont la nouvelle cible des hommes, parce qu'elles elles représentent une menace politique. Un écrivain français du 16e-17e siècle qui s'appelle Béroald de Verville a écrit à l'époque « Si les femmes savaient, elles voudraient commander ». Donc en fait, comme les femmes savantes sont une menace pour la politique parce qu'elles pourraient éventuellement faire de leur savoir un pouvoir, on décide, enfin les hommes de l'époque et surtout les hommes de l'Académie française décident de supprimer les noms féminins des métiers et des métiers savants en particulier. Donc enfin, on dit plus une philosophesse, on dit une femme philosophe, on dit plus une poétesse, même si c'est resté, même si ce mot-là a résisté. On dit une femme poète, on dit pas une autrice. Alors une autrice, c'est pas tout à fait pareil qu'une auteure. C'est un mélange entre actrice et auteur, en fait. C'est une femme qui écrit les pièces qu'elle joue. Donc autrice, on n'a plus jamais entendu ça, et il y a quelques personnes actuellement qui font de la résistance et qui continuent à utiliser le terme d'autrice, mais ça n'existe plus. Hein, voilà, ce genre de choses. Et donc on a décidé, enfin l'Académie française, les hommes de l'Académie française ont décidé de supprimer la féminisation des noms de métiers et des métiers savants. Donc voilà, tout ça pour dire que on nous taxe, enfin on taxe les féministes actuelles de purisme et de chipoter sur du détail quand on veut passer du mademoiselle au madame, quand on veut
féminiser les mots pour les rendre plus inclusifs.
Voilà, quand on veut féminiser les mots, quand on voudrait dire madame la présidente, madame la maire et pas madame le maire ou ce genre
La mairesse, on pourrait dire.
Ouais, la mairesse aussi, c'est ce genre de détails. Et inversement aussi, hein, pour l'égalité des genres, dire un sage-homme, ce genre de choses-là, un homme de ménage qui n'existe pas non plus ou qui ne sont pas dans le langage courant en tout cas. Donc on les taxe souvent de purisme, de chipoter sur du détail, mais n'empêche que le vocabulaire qui est utilisé a été sciemment masculinisé et a été sciemment sexiste et anti-féminin pour le coup. Du coup, c'est pas juste de détail de vouloir rétablir l'ordre des choses, parce que le langage est arbitraire. On va pas dire que naturellement le masculin l'emporte sur le féminin, ça aussi c'est une construction. Donc je vois pas pourquoi arbitrairement on pourrait pas remettre la balance à égalité. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, un peu différemment, le 5 mars 2015, c'est aussi pour ça que je voulais faire une rubrique là-dessus. Donc le 5 mars 2015, quelques jours avant la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elisabeth Brami et Fred L, je connais pas son nom de famille, c'est écrit comme ça, ont publié un imagier pour enfants intitulé Le Zizi des mots, donc aux éditions Talent Haut, qui est une maison d'édition engagée dans la lutte pour l'égalité des sexes. Et le livre, d'ailleurs, a été soutenu par Amnesty International. Et en fait, c'est un livre qui met en avant le fait que certains mots désignent un individu ou un sujet quand il est au masculin, alors qu'il désigne un objet, un aliment ou un animal au féminin. Et donc c'est un petit livre où il y a des dessins, donc l'illustration est par Fred L et le texte, la préface, l'explication, etc. est par Elisabeth Brami. Donc c'est un imagier, donc il y a juste des dessins avec un mot sur une page, et le mot au féminin de l'autre côté. C'est assez rigolo. Par exemple, un glacier, qui est un marchand de glace, au féminin donne une glacière, qui est un objet pour transporter des choses et les garder frais. Un meurtrier, qui est un assassin, donc qui est un homme, enfin un sujet, donne au féminin une meurtrière, qui est... Alors, ça peut passer, c'est pas ça le langage courant pour désigner une femme... qui peut avoir commis un assassinat, mais c'est aussi, surtout, des trous, des ouvertures dans les murs des châteaux forts.
Des espèces de petites fenêtres, quoi.
Voilà, pour pouvoir tirer, à l'époque, sur les envahisseurs. Un mandarin, qui est un chinois ou un savant chinois, etc., donne une mandarine. Je ne vous fais pas l'explication. un chocolatier qui est quelqu'un qui travaille le chocolat dans une chocolatière, et une chocolatière c'est un peu comme une théière, en fait c'est un récipient qui garde le chocolat chaud au chaud. Un marmot qui est de l'argot pour dire un enfant dans une marmotte.
Qui n'est pas un objet pour le coup.
Non, qui est un animal. Bah, une mandarine, c'est pareil, c'est un fruit. Et en der... enfin, en...
Non, mais je veux dire, c'est un être vivant. Quoi.
Oui, c'est un être vivant. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un être vivant. Mais n'empêche que c'est, ça, c'est un sujet, mais c'est quand même pas. Bref. Et donc, et enfin, je ne vous fais pas toute la liste, hein, je ne vous lis pas le livre, mais un marin. Donc, qui est un homme qui vit sur un bateau ou qui en tout cas navigue, devenu une marinière, qui est un t-shirt à rayures, par exemple. Et les éditions Talent Haut, d'ailleurs, après l'apparition de ce livre-là, ont lancé sur Tumblr une espèce de... Alors, c'est pas un concours, mais c'est une demande de participation, en fait. Une demande de participation à des enfants, enfin qui s'adresse à des adultes mais qui travaillent avec des enfants, et qui demande que les enfants proposent leurs trouvailles, qu'ils réfléchissent chacun de leur côté à leurs mots, sur le même principe en fait, un masculin sujet et féminin objet. Et on trouve par exemple un Canadien, donc qui est l'habitant du Canada, une Canadienne qui est une tante. Un gourmet qui est quelqu'un qui apprécie la bonne cuisine et qui en général est connu pour donner des notes, tout ça, voilà, le guide Michelin, c'est des gourmets, donne une gourmette qui est un bracelet. Et les enfants ont fait des dessins, et donc la page Tumblr elle est pas encore très fournie, mais c'est assez récent. Donc voilà, c'est des petites trouvailles.
Un petit site participatif.
Voilà, et je vous recommande. Alors, de feuilleter le livre, de le faire feuilleter à vos enfants ou
si vous en avez,
ou aux enfants que vous connaissez, c'est assez rigolo.
En tout cas, c'était vachement intéressant. Moi, je suis d'accord aussi avec ce que tu avais dit. C'est vrai que je m'y étais intéressée il y a pas si longtemps que ça, et on voit bien du coup comment cette réappropriation des mots et cette invitation à la féminisation systématique des mots ou au langage inclusif, comme on peut le prôner dans les milieux militants, donc avec une féminisation mais en majuscule qui permet d'inclure à la fois tous ceux qui veulent bien être inclus dans cette pas conjugaison, comme on dit,
vocabulaire, grammaire.
C'est, le fait que ce soit accordé, voilà, j'arrive pas à parler. Mais du coup, on voit bien que le langage est politique, autant aujourd'hui quand voit cette réappropriation. Enfin, du coup, il faut pas... j'arrive pas à parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se dire que c'est vouloir faire des petites choses que de tout simplement vouloir féminiser le langage, puisque à la base, effectivement, il y a une vraie idéologie sexiste et il y a un projet politique derrière cette masculinisation systématique.
Ouais, projet politique d'éradication des femmes des métiers aux postes importants. Après, on voit, on en parle toujours là, le ministère des droits des femmes, le secrétariat maintenant, secrétariat d'État, lutte essentiellement pour l'égalité hommes-femmes dans les postes à responsabilité machin. En même temps, quand on voit au XVIIe siècle qu'on a essayé de les virer des postes savants et des postes à dominante politique, on peut pas s'étonner non plus qu'actuellement il y ait énormément de difficultés 4 siècles plus tard à amener justement les petites filles, les jeunes filles à faire des études qui mènent à des postes à responsabilité, et encore quand elles ont même les diplômes là, en général on leur préfère un homme. Donc c'est un petit peu compliqué. Et aussi là-dessus, ça remet en question, en débat, etc. Toutes les questions des pronoms neutres, du vocabulaire inclusif, et pas que aux femmes. Enfin voilà, la neutralité des mots, des accords, des pronoms, etc. Comme il en existe dans les pays scandinaves, parce qu'il n'y a pas qu'en Finlande, il y a en Suède aussi, ou au Danemark, je pense, il y a des pronoms neutres aussi. Au Mexique aussi, j'ai lu un article là-dessus récemment. Le Mexique, bizarrement, pas bizarrement, mais contrairement à ce qu'on pourrait entendre ou à ce que certains pourraient penser, sont hyper inclusifs. Le mariage pour tous est passé depuis 2009. Enfin.
Mais en fait, on va pouvoir en parler, c'est bien, avec justement l'Iran. Il y a beaucoup de pays où il y a où la législation en vigueur nous paraît, nous occidentaux, ou en tout cas en France, contradictoires. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a, enfin, le mariage entre personnes de même sexe est autorisé depuis avant la France.
Ouais.
Et pour autant, il y a quand même des viols correctifs. Ouais. Et être lesbienne, homo, trans ou intersexe, enfin queer en Afrique et en Afrique du Sud, c'est vraiment pas facile encore à mon avis. Il y a eu un reportage d'ailleurs sur Arte il y a pas très longtemps. Et par exemple, c'est vrai que là, donc au Mexique, ouais, effectivement, peut-être qu'il y a le mariage pour tous, mais en même temps, il y a des féminicides de fous furieux en Amérique centrale et en Amérique latine. Donc,
carrément, mais ils ont aussi passé. En fait, ils ont dans la législation. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai lu l'article assez rapidement, j'ai pas pris de notes dessus, mais. En fait, il y a des personnes transgenres ou même pas forcément transsexuelles, mais voilà, transgenres peuvent changer de, je sais même pas comment on dit, de genre sur leur état civil autant de fois qu'ils veulent en fait, et de prénom très facilement et sans avoir un suivi médicalisé et psychiatrique derrière, sans avoir de même d'opération, tout ça machin. Et du coup, c'est plus facile, voilà, de changer, pas d'identité, mais voilà, de marqueur d'identité au point de vue social, que en France, par exemple. Alors après, évidemment qu'il y a encore plein d'inégalités et que c'est pas forcément facile à vivre, etc. Mais
d'un point de vue législatif,
c'est beaucoup plus
flex,
fluide. Voilà, flex. Je vais chercher ça. Et donc voilà, donc ça remet en débat toutes ces questions sur le langage et les pronoms, voilà.
Et bien justement, langage et pronoms, on va y revenir avec Facing Mirrors, le film dont je vais vous parler juste après une petite chanson, Men in Love pour la Gay Pride, une chanson de Gossip. À tout de suite.
À tout de suite.
Des hommes amoureux l'un de l'autre, c'est beau.
C'est beau.
C'était The Gossip, Men in Love. Vous êtes bien sur RCV 99 FM et vous êtes toujours avec Jean Rage. Alors, Facing Mirrors, c'est le titre anglais d'un film iranien. Je ne vous dirai pas le titre en persan, je ne sais pas lire le persan, ni le prononcer. Et d'après la traduction française, foireuse, une femme iranienne. C'est un film qui est à l'affiche en ce moment, qui a été produit en 2011 et qui est distribué en France seulement cette année. Je vous invite à aller le voir. À mon avis, il va pas rester 3 ans dans les théâtres, enfin au cinéma. Et donc voilà, c'est un film vraiment chouette. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une rencontre avant tout, celle de Rana, une femme iranienne qui est mère de famille. Elle est mariée à un homme qui est en prison, qui est incarcéré. Et de la rencontre de cette femme, donc Rana, est dédiée un garçon trans qui attend de recevoir son passeport pour quitter l'Iran. Bon là j'ai un peu spoilé, mais on se rend rapidement compte que c'est un garçon trans. Et pour une fois, tout ne se complique pas, c'est compliqué à la base. Pourquoi ? Parce que Rana, elle a un prêt à rembourser pour une voiture que son mari et elle venaient d'acheter. Sauf que lui, il ne peut pas le rembourser, il avait monté une entreprise, enfin bref, on s'en fout ça un peu. Et du coup, elle se retrouve avec à charge un enfant, un mari en prison dont à qui elle doit donner des sous, j'imagine, comme en France, quoi. Et puis, elle n'a pas de thune, quoi. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à conduire un taxi. Sauf que il y a un interdit pas juridique, mais le film laisse entendre qu'il y a un interdit juridique sur la conduite des femmes en Iran et de taxi en plus. Il y a au moins un interdit social et du coup elle cache à sa famille etc qu'elle conduit ce taxi et elle conduit la nuit, elle ne prend que des femmes. Voilà. Et puis, de l'autre côté, du côté de notre jeune homme trans, son père a décidé de marier ce que lui considère être sa fille, qui s'appelle Adinée à la base, qui est donc Eddie, notre garçon trans. Et il veut le marier en l'occurrence, à un homme, en gros, en mode réassignation à ton sexe. Hein. Et du coup, lui cherche à fuir Téhéran quelques jours, le temps que le mariage soit passé, enfin la date officielle du mariage. Qu'il soit donc trop tard pour ce mariage forcé, et surtout en attendant son passeport pour quitter l'Iran au plus vite. Alors pourquoi c'est un film vraiment chouette ? Alors il y a cette question de la transgression des normes de genre qui est vraiment prégnante. Alors à la fois du côté de Rana qui est chauffeur de taxi parce qu'elle transgresse d'une côté la loi mais aussi les normes de genre puisque elle, son genre féminin qui en plus est traditionnel, elle est là plutôt en mode... femme traditionnelle, pieuse, etc., elle remet pas en question les normes de genre à la base, elle se retrouve à faire un métier qui lui est interdit, etc. Donc il y a cette première transgression. Et puis du côté de Eddie, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est un garçon trans, donc la transgression est la transgression des genres. Il y a aussi la question de l'émancipation, alors pas des femmes, puisqu'Eddie n'est pas une femme, c'est un garçon trans, mais on va dire des minorités, je ne sais pas trop comment le dire, minorités pas numériques, mais sociales, politiques.
Rana, elle s'émancipe quand même d'un côté en transgressant... justement en transgressant l'interdit qui lui est fait de conduire.
Voilà, mais du coup, je dis pas qu'ils sont pas émancipés dans ce film, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette question qui est quand même vachement prégnante.
Ouais, ouais.
Rana, oui, effectivement, s'émancipe...
Mais tu disais pas d'émancipation forcément des femmes, mais quand même,
oui.
Avec Rana...
Non, mais je veux dire, dans le film, il n'y a pas seulement question d'émancipation des femmes, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, donc sur Rana, il y a cette pression sociale dont je parlais, elle ment à sa famille, à son mari, etc. Elle cache vraiment son activité qui est nocturne. Mais elle est obligée de l'avoir, cette activité. Et puis, il y a de l'autre côté une personne trans, donc Eddie, qui ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps et qu'on réassigne à sa place de femme via le mariage forcé. Donc, il y a vraiment cette question aussi de l'émancipation qui est centrale. Peut-être qu'on peut revenir sur le titre tout de suite. Alors, Facing Mirrors, qui fait référence, peut-être, c'est une interprétation possible, au fait qu'en se rencontrant, Eddie et Rana, en dépit de toutes les différences qui les séparent, en fait, sont deux personnes qui se reconnaissent d'une certaine manière, l'un dans l'autre, l'une dans l'autre. Et peut-être, encore une fois, il y a ce vécu qui est différent, mais il y a peut-être un dénominateur commun qui est le poids des normes de genre que ces deux personnes ressentent dans le film. Une femme qui ne doit pas conduire un taxi, encore une fois, etc. Et il y a aussi la question du voile, les femmes sont obligées d'être voilées en Iran, du coup Rana elle a toujours son voile, et Eddie il a son voile autour du cou, qu'il remet de temps en temps quand on le force à le mettre, etc. Et par contre, il y a un truc qui est chouette, c'est que malgré la transgression de ces normes, au lieu d'avoir, c'est la beauté du film, moi je trouve, c'est que au lieu d'avoir, bon, il y a des rappels à l'ordre pendant le film, mais au lieu que le film se termine sur une note dramatique, en mode c'est le destin tragique de deux personnes, de minorités politiques qui ont transgressé les codes et qu'on remet à leur place de manière tragique, au lieu de ça, il y a deux vécus différents, deux personnes qui apprennent à se connaître, à s'apprécier et même à se comprendre. C'est un film qui est quand même, enfin qui a pas éducatif, comment on dit ?
Pédagogique ?
Oui, qui a un contenu quand même assez pédagogique. Et voilà. Du coup, ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas une fin complètement tragique. Par contre, le titre choisi par la distribution, pardon, oh là là, Outplay,
ça va aller.
Outplay, qui est le nom de la boîte de distribution. Le titre, donc, Une femme iranienne, c'est complètement n'importe quoi. Ça invisibilise le fait qu'Eddie soit pas une femme, mais un garçon trans. Donc, c'est une forme de réassignation quand même assez violente, je trouve. Alors même que l'intérêt du film, c'est justement mettre en valeur les deux vécus. Donc voilà, titre vraiment à chier. Mais on reparlera de la distribution juste après. Il y a aussi donc la question de la pression sociale, elle est aussi montrée sous forme de surveillance avec les proches qui vérifient que quand Rana revient avec Eddie chez elle au final. Et en fait, tous ses profs, les gens du quartier, les gens qu'elle côtoie, il y a une dame qui vit chez elle. J'ai pas trop compris. Je pense que c'est la mère de son mari en fait, qui vit à moitié chez elle ou qui vient souvent en tout cas. Et ils ont tous un œil pour vérifier ce qui se passe et tout. Et on voit qu'il y a cette pression sociale sur Rana qui pèse parce que à la fois elle a une personne trans chez elle et à la fois parce qu'il y a un homme chez elle qui est ni son mari et même si c'était quelqu'un de sa famille, on comprend que ça poserait quand même problème quoi. Voilà, et puis dernièrement, dans ce film, il y a un autre truc qui est vachement intéressant. Ça met en valeur tout ça, donc c'est vraiment chouette. Il y a la question de l'intériorisation des normes sociales, parce que, ben, par exemple, Rana, c'est la première à dire à Eddie « mets ton voile », surtout quand il y a des gens qui arrivent. Il y a aussi une scène avec... Donc on voit bien qu'en fait, la norme a été intériorisée par Rana. Il y a aussi une scène avec le fils de Rana, qui adore Eddie, donc j'ai trouvé ça un peu cliché, mais Eddie, en gros, quand il arrive chez Rana et qu'elle vit seule, hein, il fait un peu office de père de substitution, de figure paternelle, il joue au foot avec le fils de Rana, etc. Donc c'est un peu gros, mais c'est pas très grave. Et puis à un moment donné, le fils de Rana s'habille en fille, et là, Rana pète un câble, et elle lui dit « Ah, il faut jamais t'habiller en fille, tu fais plus jamais ça, etc. » Puis après coup, elle se rend compte que sa réaction, elle est quand même exagérée. Son fils, il est en larmes dans ses bras, etc. Du coup, il y a quand même un regard tendre sur ça. Et c'est aussi dédramatisé, je pense. En fait, le fait qu'il montre que Rana a une réaction qui est vraiment sur...
Disproportionnée.
Disproportionnée, ouais. Ça montre qu'au final, bah, c'est tout. Il s'est juste déguisé en meuf, quoi. C'est pas très grave.
Puis ça remet...
Enfin, il s'est déguisé en meuf. Il s'est travesti.
Ouais. Et puis ça...
Pas pareil.
C'est intéressant parce que ça pose la question de la remise en question aussi. Elle se rend compte que sa réaction est disproportionnée et en plus, elle commence à apprécier Eddie. Enfin, tu vois, il y a toute cette remise en question là qui fait que bah pourquoi son fils pourrait pas quoi.
Puis il y a aussi la réaction d'Eddie qui dit il parle pas mais on voit bien que il le vit mal et bref. C'est assez bien foutu. Donc il y a toutes ces questions là qui sont des questions quand même assez importantes qui sont montrées dans le film. C'est vraiment chouette. Alors après, peut-être, revenons sur la distribution, donc avec la boîte Outplay et puis la polémique qu'il y a autour de cette distribution. Alors premièrement, il y a le titre qui est une première grosse erreur. Et puis la deuxième, c'est que la distribution française, en plus d'avoir un titre à deux balles, elle a fait appel à une boîte de traduction qui se revautre dans la merde qu'ils ont déjà foutue avec le titre, puisque les sous-titres en fait, font référence à Eddie parfois comme une personne trans, parfois comme une personne intersexe, donc déjà il y a une grosse confusion là entre les deux qui n'a pas du tout lieu d'être. Des fois ils genrent les pronoms en faisant passer Eddie pour une femme trans au lieu d'un homme trans, donc ça brouille encore les spectateurs non avertis qui savent pas qu'on dit un garçon trans pour une personne en transition qui passe d'un genre féminin à un genre masculin par exemple. Enfin, pour les personnes qui ne savent pas trop comment marche tout ça, et il y en a plein, c'est normal, et on ne va pas leur taper sur les doigts, ça brouille vraiment tout, et tu sors du film, si tu sais pas, si t'as pas compris que Eddie c'était un garçon trans, tu sais plus, tu penses qu'intersexe c'est pareil que trans, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et c'est une question qui a été soulevée à la fois par le site YAG. Ils ont écrit un article dessus. Ils ont interviewé. Je ne sais pas s'ils ont interviewé Thibaut Fougère, donc, qui est le directeur de la boîte de distribution, ou s'ils ont été à l'avant-première et ils ont pu le rencontrer à ce moment-là. Mais en gros, ils ont. Ils ont la réponse de Thibaut Fougère qui lui dit que c'est des experts qui se sont chargés du sous-titrage, que intersex finalement ça convient bien à Eddy de temps en temps, ce qui veut rien dire, c'est n'importe quoi.
Ah, la justification de merde.
et en gros le titre c'est pour que ce soit un peu plus grand public et que ce soit pas trop connoté trans, enfin c'est n'importe quoi, c'est abusé. Ça
c'est même... hyper transphobe en
c'est
plus.
C'est hyper transphobe en fait, la boîte de distribution est accusée de transphobie du coup par YAG.
Enfin c'est hyper violent de dire ça pour que ce soit plus grand public et pas trop connoté trans, mais c'est justement le but quoi, merde.
Et alors même que la réalisatrice et la productrice qui ont co-écrit le scénario sont claires sur le fait qu'Eddy est un garçon trans et rien d'autre. Voilà, il n'y a pas que YAG après qui a soulevé cette situation aussi. Il y a la revue Transkind, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une revue que vous pouvez trouver sur Internet, qui a publié une tribune que vous pouvez retrouver soit dans le numéro de mars 2015, soit sur le blog Blunderk, B-L-U-N-D-E-R-K, blunderk.wordpress.com, un article daté du 6 mars. La tribune s'intitule « De Facing Mirrors à une femme iranienne, l'exemple même de l'invisibilisation progressive des trans masculins dans le cinéma LGBT ». Et je vais vous lire un petit passage qui est vraiment intéressant et qui me paraît complètement pertinent. « Il y a très peu de films avec un trans masculin comme personnage principal, on peut les compter sur les doigts d'une main, mais on trouve toujours Boys Don't Cry classé sur certains sites LGBT dans la catégorie lesbienne et ça ne choque que nous, j'ai l'impression ». Je pense qu'il est temps qu'on ne laisse plus rien passer, qu'on arrête d'être gentil et qu'on s'arrête sur ces détails qui, mis à la suite les uns des autres, nous pourrissent la vie. Il est temps d'exiger des gays, des lesbiennes et des bi, cis, qu'ils, elles, prennent leurs responsabilités si ils, elles, veulent continuer à arborer le sigle LGBT sans problème. Alors là, c'est pas une attaque vis-à-vis de la distribution, c'est... une attaque qui est faite sur des pratiques qui s'exercent dans la communauté LGBT et qui, enfin, c'est tout à fait, enfin, je trouve ça tout à fait légitime. Voilà, donc c'est aussi une invitation à arrêter de classer des films avec des trans dans des catégories dans lesquelles ils n'ont pas lieu d'être. Voilà. Sinon, autre point assez cool, ce sont deux femmes qui ont réalisé et produit. Et écrit le film. Alors, je ne me souviens plus, là, j'ai oublié d'écrire le nom de la réalisatrice et de la productrice, c'est un peu con, mais vous allez le retrouver sur Internet, il n'y a pas de problème. Elles ont aussi été interviewées par un ou une journaliste de YAG, je ne sais plus. C'est assez intéressant ce qu'elles racontent, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de personnes trans des pays voisins qui viennent se faire opérer en Iran, parce qu'en fait, c'est autorisé et c'est même remboursé, apparemment, en tout cas en partie. Donc, autre fait qu'on pourrait considérer comme une contradiction en France. Comment elles ont dû écrire le film aussi en sachant qu'il pouvait être rendu illégal par le gouvernement si elles allaient trop loin. Et du coup, comment elles se sont servies du personnage de Rana, du coup, qui incarne un peu la figure traditionnelle, qui voit les gens de manière très traditionnelle, etc. Et du coup, elles ont utilisé ce personnage pour imaginer les reproches qu'on pourrait faire au film ou les questions que pouvait avoir le public. Qui serait trop en mode pour pas faire un film dans mode trop libéral, etc. Et du coup, il y a en quelque sorte aussi le point de vue du gouvernement qui est donné au travers du personnage de Rana. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir cette interview, elle est très intéressante.
C'est super intelligent en plus de l'avoir fait comme ça parce que du coup, c'est un film qui va pas forcément être censuré, qui va passer le message qu'il cherche à passer tout en se protégeant aussi et en ayant anticipé les reproches. Quoi.
En fait, ce qu'elles expliquent, c'est que pour faire des films à tout petit budget alternatif, tu n'as pas besoin d'avoir une autorisation du gouvernement. Mais dès que tu fais un film avec une production un peu plus importante, là, tu es obligé. Et du coup, c'est vrai qu'elles ont un peu contourné le truc. Ouais. Bon, il y a quand même... Du coup, elles ne sont pas en mode grosse fiesta et tout, mais le film a un contenu pédagogique qui est intéressant pour le grand public, je pense.
Carrément. Ouais.
Et il est assez sympa à voir. Je vous invite donc à aller le voir avant qu'il ne soit plus dans les salles. Et même si les sous-titres et le titre français de la distribution française, c'est de la merde, allez-y quand même.
Au moins, vous êtes averti maintenant.
Voilà, vous êtes averti, vous savez de quoi il s'agit. Il faut faire... Voilà. Après, vous pouvez aussi décider de boycotter le film en vous disant que bah, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait et le choper sur Internet.
En anglais.
Ce que j'avais lu aussi... Alors, en anglais, il n'y a pas ce problème-là, apparemment. Ce que j'avais lu aussi, c'est qu'il avait été déjà... Enfin, il avait tourné dans les cercles militants et qu'il a... Enfin, le film a été produit en 2011, donc ça fait déjà perpète qu'il a été produit. Il y a moyen de le trouver peut-être avec des sous-titres alternatifs. Qui sait ? Voilà, on refait une petite pause et puis ensuite, on parlera de René Cox... Enfin, Suzanne vous en parlera. Voilà, à tout de suite.
À tout de suite.
Le titre, peut-être, de la prochaine chanson, que je ne trouve plus, voilà, je suis devant. Bitoko Before I Lose Control. À tout de suite. Voilà, vous êtes de retour sur RCV. Tout de suite, on vous passe la petite rubrique que nous a préparée Suzanne sur René Cox depuis les États-Unis. À tout de suite.
Bonjour Jean Rage, bonjour les auditrices et auditeurs lillois. Aujourd'hui, je vais vous parler de René Cox, une artiste photographe américaine, africaine-américaine, pardon, afrocentriste et féministe. Alors, j'ai choisi René Cox, ses récentes pièces, Yo Mama's Last Supper, en français le dernier repas ou la scène de Yo Mama, puisqu'il s'agit d'une référence biblique, a récemment été exposée au musée Johnson de l'université de Cornell. Alors le mieux, c'est toujours d'avoir près de soi un moteur de recherche d'images pour avoir une idée du travail de l'artiste et suivre d'un peu plus près la description des œuvres. Ou, puisque c'est ce que je vais faire, je vais donner au moins, je vais parler de deux tableaux, enfin de deux compositions photographiques de l'artiste. Donc si vous les avez près de vous, en face de vous, c'est encore mieux. Et il me semble aussi que enfin, j'ai cherché un moyen de justifier la raison pour laquelle je parle d'une artiste africaine-américaine, féministe, depuis les États-Unis pour m'adresser à une radio locale. Et l'enjeu de la traduction m'est paru tout de suite assez important et m'est paru central en fait dans ce processus-là, puisque traduire les textes, essais, romans, livres, films d'une langue ou d'une culture à une autre, c'est un travail loin d'être simple, mais vital pour l'avancée des luttes. Par exemple, sans la traduction en 2005 par Cynthia Krause du Gender Trouble de Judith Butler, traduit par Trouble dans le genre, la pensée de Butler n'aurait certainement pas autant été diffusée et certainement pas incorporée comme elle est aujourd'hui à la pensée des féministes queer de langue française. Et donc l'idée que, par exemple, l'idée que le genre est une série de performances sans cesse répétées et répétées et répétées jusqu'à produire un effet naturel ou jusqu'à produire une impression d'authenticité, l'idée que le féminin et le masculin sont produits par un régime hétérosexuel qui les institue et les produit de façon binaire dans son propre intérêt, c'est Butler. Bon, ce n'est pas qu'elle, elle n'est pas la première à dire tout ça à la fois. Mais ça reste Butler quand même. Alors, c'est valable de Butler, l'utilité de ce travail de traduction, comme de beaucoup d'autres. Et on sait malheureusement que trop peu de théories du genre, de textes pensés postcoloniales anglophones nous parviennent. Et souvent, nous parviennent des années après. Tout ça pour dire, en fait, que connaître des artistes, et notamment étrangers, qui intègrent à leurs œuvres une dimension politique, c'est déjà un acte politique et une méthode souvent d'ailleurs utilisée par les queers et les féministes. Et aussi pour dire qu'utiliser la radio comme mégaphone et diffuseur d'ondes de textes d'événements locaux, oui, mais aussi transnationaux, c'est peut-être une des résistances positives à tirer de la mondialisation. Bon, mais revenons à notre artiste du jour, René Cox. Si vous tapez sur votre moteur de recherche « It shall be named » sur Google, qu'on pourrait traduire par « Il sera appelé », vous tomberez sur une photo d'un jeune homme noir crucifixié. L'œuvre qui est en forme de croix est le produit d'une composition photographique. Donc si vous regardez attentivement, vous voyez que les photons ont été plusieurs photos qui se présentent un peu comme des cadres, sont assemblées les unes aux autres, se suivent, sont juxtaposées. Et chacune des photos représente différents membres qui, associés tout ensemble, forment un corps en forme de croix, qui forme un corps en fait démembré et désarticulé, car la technique de juxtaposition bancale des photos redouble l'effet de dramatisation d'une scène de torture et la mise en scène d'un corps en souffrance, d'un corps christique en souffrance. Cette œuvre a été exposée en 1994 pour la première fois à New York au musée Whitney d'art américain. Et elle donne une bonne introduction aux enjeux de l'œuvre de René Cox, c'est-à-dire qu'on voit à travers cette composition qu'elles revisitent, mais surtout se réapproprient le patrimoine culturel et religieux chrétien, qui est historiquement, idéologiquement et esthétiquement colonial, blanc, patriarcal. La méthode et le discours de René Cox peuvent être assez simplement expliqués, mais les effets visuels sont souvent détonnants. René Cox, qui est né en Jamaïque et qui a fait ses études à l'université de Syracuse sur la côte ouest des États-Unis, est par deux fois rappelé au traumatisme historique des lynchages, des émasculations, des tortures qui ont été endurées par les esclaves jamaïcains et états-uniens. Et ici donc, par cette photo, c'est la tradition iconographique de la Passion du Christ, hein, qui est un peu le premier martyr chrétien d'une certaine manière, qu'elle récupère pour mettre au centre de son nouveau récit visuel ses ancêtres, les esclaves, hein, on pourrait dire. Et celles-là, comme les suivantes, comme d'autres de ces photos, sont en fait des mises en scène, des compositions. Il n'y a pas chez René Cox une recherche de réalisme. L'artifice du montage est vraiment explicite, un peu dans la lignée d'une Cindy Sherman. Et René Cox, à la différence de Cindy Sherman, par contre, ne se travestit pas. Mais comme elle, par contre, elle est souvent l'héroïne de ses œuvres. Et dans « I shall not see », le discours, on pourrait résumer le discours de l'œuvre de l'artiste de cette manière-là, serait « La chrétienté n'offre aucune image fraternelle, hein, entre guillemets, aux Africains américains. Si Dieu a créé l'homme à son image et que Jésus rachète par sa souffrance les crimes de l'humanité, c'est au crime de l'esclavage qu'il devrait rendre compte. » Et René Cox passe donc par un travail de subjectivation. Elle remet du sujet là où il n'y a eu que des objets de l'histoire. Mais plus caractéristiquement, c'est souvent l'artiste elle-même qui est au centre de la composition et du récit construit par la photo. Se mettre, on va voir ça avec notamment une prochaine œuvre dont je vais vous parler vraiment dans un instant, se mettre au centre de la photo, je souligne bien le mot « au centre », c'est remettre les femmes noires à travers elles au centre esthétique et politique de son œuvre. C'est en gros centrer la marge par l'objectif photographique. Donc il y a vraiment un projet esthétique et politique double, enfin un projet double esthétique et politique presque simultanément. L'un ne va pas sans l'autre, ils sont vraiment solidaires, ces deux processus, ces deux méthodes. Et encore une fois, l'artifice du récit chez René Cox est exposé. C'est-à-dire que souvent dans ses œuvres, ce n'est pas René Cox. Quand elle est présente dans ses œuvres, ce n'est pas René Cox en personne, sur les photos, mais des personnages, ses alter ego, Rajé ou Yo Mama. Ce sont deux personnages, deux alter ego qu'elle a créés, et qui reviennent dans plusieurs de ses œuvres. Rajé est une sorte de super-héroïne qui part en croisade contre le racisme et diffuse l'histoire africaine-américaine. Et Yo Mama, elle est l'héroïne de la célèbre photo, notamment Yo Mama's Last Supper, qu'on pourrait traduire par la scène ou le dernier repas de Yo Mama, dans laquelle on reconnaît une recomposition, une réimagination du classique de Leonardo da Vinci. La photo a d'ailleurs été, donc la photo dont je vous parle, hein, Yo Mama's Last Supper, a été exposée pour la première fois à l'exposition Committed to the Image en 2001 au musée de Brooklyn, qui a une collection très importante, qui a la collection la plus importante probablement des États-Unis d'art africain américain. Et cette œuvre a été en fait l'objet d'une controverse d'envergure nationale. Les catholiques ont crié au blasphème, bien sûr, et le maire de New York, Rudy Giuliani, a essayé de secouer la justice pour qu'elle applique des mesures de censure, qu'il a essayé d'appeler bienséance. Alors, de quoi s'agit-il dans ce tableau photo? En fait, René Cox, ou son personnage, Yo Mama, qui est la seule femme parmi les 12 apôtres, s'est représentée comme Dieu, à la place de Dieu. Elle est au centre de la photo. Et cette représentation féministe est une référence directe à la religion vaudou, dans laquelle l'être suprême, Nana Buluk, est en fait une femme. Donc ici, en fait, René Cox, parmi d'autres choses, déplace la cosmologie eurocentrée par une cosmologie africaine. Donc il y a vraiment presque un décentrement historique, tout en restant dans l'iconographie, dans l'histoire iconographique chrétienne, dans l'art occidental, mais qu'elle déplace, qu'elle hybridise, on pourrait presque dire, par une cosmologie afrocentrée. Et vous remarquerez également qu'il y a un clin d'œil supplémentaire dans la photo, à cet acte subversif, visuel, c'est que tous les apôtres sont noirs, excepté Judas, qui est blanc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Là, chacun est libre de le lire de la façon dont il veut. En tout cas, il y a clairement un discours, il y a clairement un sourire ironique, il y a quelque chose. Et à côté de la référence religieuse, c'est par ça que j'aimerais en fait terminer la présentation de René Cox d'aujourd'hui. C'est par cette question et cette réflexion. Pourquoi une femme noire à la place de Jésus en nouvelle déesse ? Pourquoi René Cox se recentre-t-elle, se remet-elle en scène dans l'histoire oppressive, coloniale, patriarcale de la chrétienté, de l'iconographie chrétienne ? Eh bien, une des réponses qu'elle donne, qu'elle a données déjà, et est assez caractéristique, ça ne lui enlève pas la singularité et l'originalité de son approche, mais il me semble qu'elle s'intègre quand même à une approche culturellement américaine qui est politiquement aussi théoriquement, qui s'intègre bien à la théorie, à l'approche politique minoritaire américaine. C'est en fait, selon René Cox, un geste de self-love, d'amour de soi, que l'artiste ouvre. En fait, aimer son image, la phrase Black is beautiful, hein, c'est un des gestes politiques que l'art contemporain des artistes américaines parfois offre. Voilà, je vous laisse sur cette dernière phrase, Black is beautiful, et vous propose de se retrouver une prochaine fois pour peut-être une nouvelle artiste, un nouveau texte, un nouveau pamphlet que j'offrirai de vous traduire et d'essayer de présenter. Voilà, bon après-midi à tout le monde, bon après-midi aux Lillois, Lilloises et à Jean Rage. Ciao.
Voilà, vous êtes toujours sur RCV avec Jean Rage. C'était Suzanne depuis les États-Unis, depuis Ithaca, qui est encore là-bas. Elle y sera peut-être encore l'année prochaine. Nous ne savons pas encore.
Le retour de Suzanne à Jean Rage.
Voilà, ce serait cool. En tout cas, là, c'était chouette d'avoir un petit podcast de elle. Et ben, pour finir en musique, on va vous passer une bonne petite, une bebonde chanson d'Azalea Banks, Licorice. Plus tard, dans 2 semaines.
Bah ouais, salut, dans 2 semaines, à plus tard. Genre. Look, niggas really wanna beat they chats for B-A-N-K-S. Huh. These niggas be gorillas with a pancake flash. Huh. These niggas be vanilla, the chips be legitimate. They just want the pumper nickel sets and the linens with them. So since you vanilla men spin, can my hot fudge bitches get rich or vanilla friends? Hey, I'm the licorice bitch. You know I'm looking for these niggas if these niggas is rich. And make hits, motherfucker. Do you jiggle your dick when your bitch pop singing on the licorice hit, you know? Can I get your eyes, sir? Can I be what you like? Yeah, I could be the right girl. Tell me if you like your lady and mine like color. Can I be your type? Yeah, I could be the right girl. Tell me if you like your lady and mine like color. Can I be your type? Yeah, I could set you right. Whoa, how are you tonight, sir? I'm living my life, oh, hope you feel alright. Yeah, hey, I'm the like
licorice bitch. You know I'm looking for these niggas is rich. You got creme 50 colors in the blue eye too high. I wanna get the number, take you to 212 line. Maybe we can slumber, we can woo 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 one. You don't do yay, but if you want to, fine. Your fantasy could get that pitch black, cause it's gonna rock if you slip in betwixt that black snatch. You like the Zach or black cat, I'm illuminating where you miss that mustache at. Huh, I bet you been extra gas. What you really wanna touch up on the molasses ass? What you really wanna tuck up on the kids at today? Cause the kids ass in shade. You wanna cut it with your bitch after 8. But I gotta dip, I gotta get that the cake. Lot of squid like to make, and the dick don't fuck up any squid like for banks. No issues picking money over her hat, yeah, beige and she just wanna see the best in Greece with some gentlemen and check these beats in the sun. He just wanna see the wet, wet weave when I'm swimming in the West Indies. And it's the top and catch these greasy belly could be terror, I'm auntie. Nigga. That I be on that black girl shit. That black girl pin up with that black girl dip. Put that black girl spin up on your whack girl tip. Ain't official till they been up in that black girl kit. Pick out your mans and attack real quick. I'ma hit him with that venom in that rap girl hip. I slip out the denims, know that black girl fit. Get that Remy and it didn't hit that black girl switch. Bitches let it tan for the summer and for the haters. Quit that chit chat and get your paper coat. Send them in the cherry melange, bitch. Verbatim when they speak about your face and the clams with the flavors. You get that in stimulator. Take a lick up on my genital, then sit the saver. Do your mans and his licorice interest the favor. I could be the right girl. Tell me if you like your lady and my light color. Can I be your type? Yeah, I can set you right. Whoa, how are you tonight, sir? I'm living my life. Oh, hope you feel alright. Yeah.